Beurre FM, les mots piégés du débat républicain, Pierre-Henri.
Vous le savez, il y a des mots qui fâchent, des mots du vocabulaire politique. Souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat, ils nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Et vous le savez, ces mots, nous les déminons, nous les expliquons, ou simplement nous essayons de mieux les connaître sur l'antenne de Beurre FM depuis plus de 4 mois. Les mots piégés du débat républicain, une émission qui débusque les faux-semblants, après être revenu sur l'origine du mot et sa balade dans l'actualité, je reçois un ou une invitée qui nous aide à y voir encore plus clair. Aujourd'hui, c'est le terme « grand remplacement » qui est sur la sellette. Il y a encore 10 ans, l'expression « grand remplacement » n'était connue et prononcée que dans les milieux d'extrême droite. Aujourd'hui, l'expression et la théorie qui l'accompagne ont réussi à s'imposer dans les débats de la campagne présidentielle. Mais au fait, c'est quoi le grand remplacement ? Remplacer, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de quelque chose ou quelqu'un d'autre. Remplacer en grand, c'est le faire dans une proportion qui n'a rien d'ordinaire. Dramatiser en majuscule, c'est encore mieux. Les extrémistes se plaisent en effet à écrire « grand remplacement » avec des majuscules à « grand » et à « remplacement », comme on écrit « grande guerre »,« grande armée »,« libération » ou « révolution ». Le remplacement, selon eux, s'annonce donc historique, hors norme, exceptionnel. C'est une manière de mettre le peuple en garde. Attention, les blancs sont comme les dinosaures, appelés à disparaître définitivement. C'est en tout cas ce que prédit Renaud Camus, multi-condamné et créateur de l'expression « une civilisation blanche et chrétienne » sera bientôt grand remplacé par des populations majoritairement musulmanes venues d'Afrique et du Moyen-Orient. Pour appuyer leur argument, les complotistes citent des chiffres. Ils aiment rappeler qu'il y a en France presque 7 millions d'immigrés. Mais ils oublient de préciser que plus d'un tiers d'entre eux ont acquis la nationalité française. Qu'à cela ne tienne, ils avancent alors que 5 millions d'étrangers habitent en France, soit 7% de la population totale, et qu'ils sont prêts à remplacer les Français de souche. Ils oublient de souligner une nouvelle fois qu'un tiers de ces étrangers proviennent d'Europe et que tous ne se destinent pas à rester dans notre beau pays. Le concept de grand remplacement n'est pas nouveau. Au début du XXe siècle, déjà, les nationalistes craignaient un remplacement du français par l'étranger. Mais cet étranger, qui menaçait de ruiner la patrie, c'était alors le juif. Cette théorie actualisée se focalise sur un prétendu choc des civilisations. Certains de ses partisans préfère évoquer une culture à défendre plutôt qu'une couleur de peau ou une religion à combattre. D'autres vont même jusqu'à se déclarer non-violents. Baliverne que tout cela. La théorie complotiste du grand remplacement n'a rien à envier aux vieilles idées xénophobes de l'ultra-droite et elle a déjà commencé à tuer en masse. En 2019, 2 massacres ont été motivés par la thèse du grand remplacement à Christchurch, 51 morts dans 2 mosquées, à El Paso, 23 morts. Dans la théorie du grand remplacement, rien ne résiste à l'épreuve des faits. Il n'y a pas de déferlante migratoire, il n'y a pas de changement de civilisation, il n'y a pas d'invasion africaine, non déplaise aux complotistes. Le grand remplacement, nous allons maintenant discuter avec notre invitée, Madame Catherine Vitol de Vanden. Madame Vitol de Vanden est directrice de recherche au CNRS, rattachée au Centre de recherche internationale de Sciences Po, spécialiste des migrations internationales. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Atlas des migrations, a été publié en 2021 aux éditions Autrement. Bonjour Catherine Vitol de Vanden.
Bonjour.
La théorie du grand remplacement va souvent de pair avec la critique de la mondialisation et la vision d'un territoire fermé. Finalement, cette théorie n'est-elle pas la reprise modernisée de l'éternelle xénophobie des droites extrêmes ?
Tout à fait. En fait, sous un look apparemment modernisé, parce que le thème a été utilisé par un démographe dont je parlerai tout à l'heure, pas du tout dans l'esprit qui est utilisé aujourd'hui dans le débat présidentiel, mais c'est vrai que dans le grand remplacement, il y a la vision un peu maurassienne et très traditionnelle d'une société. Il y a aussi toutes les de la fin du 19e et début du 20e siècle. Il y a aussi tous les thèmes du déclinisme, de l'entre-deux-guerres qui étaient largement utilisés dans les années 20 et 30, puisqu'on est au 100e anniversaire, si j'ose dire, de ces idées-là. Je cite entre autres Spengler, bien sûr, sur le déclin de l'Occident. Cette idée du grand remplacement emprunte en partie à cette idéologie droitière, extrême droitière du déclin. Là-dessus, se sont ajoutés d'autres thèmes. Je reprends l'idée que la civilisation serait en crise, Huntington, le clash des civilisations, mais surtout un travail de démographe qui s'appelle Grimblat, Joseph Grimblat, aux Nations Unies, qui a fait une série de scénarios démographiques sur que serait l'Europe, le Japon, la Russie, qui sont des pays en déclin démographique, sans migration, donc avec un scénario sans migration du tout, un scénario pour combien d'immigrants seraient utiles pour équilibrer la pyramide des âges, pour équilibrer la part des actifs par rapport aux inactifs. Et donc ce travail très très austère de démographe a été intitulé dans la presse new-yorkaise The Great Replacement. Et ensuite Renaud Camus, donc l'idéologue de l'extrême droite, l'a utilisé à des fins civilisationnel. Pour lui, il s'agit de la prise de Grenade à l'envers, la reconquiste à part des musulmans, et donc la fin de la civilisation européenne qui serait menacée par, les musulmans, mais aussi par la démographie galopante de l'Afrique, qui avait été analysée entre autres par Stephen Smith, qui dit « L'Afrique va nous envahir, la ruée vers l'Europe », c'est son livre sorti en 2018 qui insiste sur cette thématique.
Alors comment vous expliquez malgré tout que cette théorie complotiste, vous venez de nous le dire, qui a des racines très anciennes et très profondes, soit finalement parvenue à prendre tant de place dans les débats politiques? Je pense en particulier à un débat récent en France pour la désignation du champion des Républicains dans la droite classique, où un long passage a été consacré à ce fameux grand remplacement.
Alors, d'une part, je crois qu'il y a les thèmes un peu de Huntington qui ont suivi leur cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un affrontement Est-Ouest dans le monde, mais dans un affrontement Nord-Sud, et la grande menace de l'Occident, c'est l'islam. Donc ça, c'est les idées du clash des civilisations de Huntington, et qui met l'accent sur, dans son livre qui s'appelle « Who are we ?» sur la notion d'identité, qui sommes-nous, etc. Donc nous perdons nos identités dans ce contexte-là. Donc ça a fait son chemin. Et l'idée aujourd'hui, donc du grand remplacement, c'est moins d'ailleurs la cette dimension démographique que civilisationnelle en réalité, avec l'idée que en fait la civilisation européenne se perd sous le poids de l'immigration, de l'islam et de toute une série de. C'est aussi l'idée d'un complot qui serait fait par les élites. Oui. Cosmopolite et mondialisé. Il y a ça dans le thème du grand remplacement.
Oui, mais alors, cette bataille culturelle contre les théories de l'extrême droite, ça impose évidemment d'avoir des arguments solides. Et vous, lesquels mettriez-vous en avant, en sachant que nous sommes bien souvent non pas dans la raison dans ce domaine, mais dans le ressenti?
Tout à fait, c'est le ressenti qui implique on serait plus chez soi dans les banlieues, etc. C'est des vieux thèmes en réalité que l'on trouve dans des quantités d'analyses extrême droitières depuis longtemps. Alors les premières choses, c'est la dimension quand même démographique. Il faut quand même rappeler que sans l'immigration, l'Europe et les États-Unis seraient dans un déclin démographique. Aujourd'hui, j'entendais les résultats des chiffres de l'INSEE sur la population française, qui est tout juste un petit peu au-dessus de ses voisines en termes de démographie, mais à 1,9, donc on n'est même pas encore au niveau du remplacement des générations. Et l'immigration est le seul facteur de croissance de la population en Europe et aux États-Unis, qui sont deux grandes régions d'immigration. Donc ça, c'est un premier élément important, parce que si on ne veut pas sombrer dans le vieillissement, la Covid a montré aussi des pénuries de main-d'œuvre, etc., on a besoin de l'immigration. Donc ça, je crois que c'est le premier élément important, mais en même temps, cette place de l'immigration dans la population de la plupart des pays européens, en moyenne, elle est entre 8 et 10%. Donc on n'est pas dans un phénomène de grand remplacement. Des démographes comme François Héran insistent beaucoup dans leurs cours au Collège de France sur ce phénomène. Donc je crois qu'il faut quand même prendre ce premier argument. L'autre argument, les autres arguments, c'est des arguments de type culturel. On est dans et fait peut-être une certaine archipélisation des entre-soi culturels, mais dans l'ensemble, les cultures dominantes de la plupart des pays européens restent quand même solides ne sont pas menacées véritablement par des contre-cultures qui viendraient de l'immigration, des périphéries, etc. Donc ça, je pense que c'est un aspect qui est quand même très très important. Dans l'ensemble, les phénomènes d'intégration fonctionnent, quoi qu'on en pense, il y a encore une très grande solidité des cultures européennes, nationales, et aussi d'ailleurs d'un certain nombre de projets européens de vivre ensemble et d'affirmation de ce que peut être une culture européenne. Donc je crois que ça c'est quand même très très important. Et puis dernier point, et là j'insiste sur contrecarrer le livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe. Certes, l'Afrique a une démographie très importante dans la partie subsaharienne, mais la plupart des Africains, puisque c'est ceux qui sont aujourd'hui définis comme cibles qui apporteraient ce grand remplacement, les Africains migrent surtout en Afrique. Aujourd'hui, on a 26,5 millions de migrants à l'intérieur de l'Afrique qui sont pour l'essentiel des Africains et qui, pour le reste, migrent dans le Golfe, migrent en Europe, migrent aux États-Unis, migrent en Chine, etc. Mais l'Europe est loin d'être la destination
finale
de ces migrations. On a énormément de migrations internes, notamment avec les déplacés environnementaux. C'est pas demain qu'on va trouver à sa porte un déplacé environnemental dans les pays européens. Et d'autre part, la plupart des Africains, pour des raisons de commodité, de prix, de la migration, etc., de coûts, migrent en Afrique. Donc on est tout à fait dans une idée fausse de ce que sont ces phénomènes migratoires transcontinentaux.
Merci Catherine Vitold van Doorn d'avoir ramené de la raison dans ce débat qui en manque souvent. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
C'était Les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.